Imaginez un peu un monde où juste toucher la mauvaise chaise ou bien manger un plat préparé d'une certaine façon, ça fait pas juste de vous quelqu'un d'impoli.
Ouais, ça vous rend littéralement toxique.
Exactement. Toxique, ça vous coupe carrément de votre communauté et, plus grave encore, de la présence même de Dieu. Et tout ça sous peine de conséquences hyper dramatiques.
C'est vraiment la réalité terrifiante du monde antique, en fait. Et c'était extrêmement codifié.
Et c'est pour ça que notre plongée dans les sources d'aujourd'hui est si fascinante. Je suis vraiment ravie de décortiquer tout ça. L'objectif de notre exploration, c'est de décoder les recherches du docteur David de Silva.
Tout à fait. Plus particulièrement, sa conférence sur l'Épître aux Hébreux.
Voilà, la session 8 sur la pureté et la pollution, c'est ça. Et ce texte ancien, qui peut sembler un peu dense ou jargonneux au premier abord, bah, c'est en réalité le récit d'un véritable tremblement de terre.
C'est le mot juste, ouais.
Ça raconte comment ces fameuses cartes de pureté millénaires, elles ont été purement et simplement déchirées pour redéfinir totalement l'accès au divin.
Et cette notion de carte de pureté, elle est vraiment cruciale pour comprendre l'Antiquité. Parce que l'esprit moderne, il a tendance à voir la pureté ou la pollution comme de vagues métaphores spirituelles.
Genre un état d'âme, quoi.
Voilà, un état d'âme, exactement. Mais à l'époque, c'était des lignes de démarcation physiques, sociales, architecturales, et elles étaient implacables.
C'est fou de se dire ça.
Ah oui, une tache sur le corps, une maladie, ou même un contact interdit. Ça définissait avec une précision géométrique votre place dans la société. C'était une carte invisible mais absolue.
Bon, alors décortiquons ça parce que le travail du docteur De Silva met en lumière un bouleversement qui dépasse de loin la simple querelle théologique. Et pour saisir l'ampleur du truc, il faut d'abord regarder à qui s'adresse ce texte.
Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les indices historiques, ils pointent vers une congrégation très spécifique. Une congrégation qui a été fortement influencée par la mission de l'apôtre Paul.
Oui, on a même la mention de Timothée dans le chapitre 13, non? L'un des plus proches collaborateurs de Paul.
C'est ça, Timothée est mentionné. Et ce détail, c'est pas juste une petite note de bas de page pour les historiens.
Ah non, c'est énorme, parce que si cette communauté a baigné dans la pensée de Paul, ça veut dire qu'elle avait déjà commencé à assimiler une idée hyper choquante pour l'époque.
Un vrai scandale, ouais. La destruction du mur de séparation entre les Juifs et le reste du monde, ce qu'on appelait les gentils.
Et ce mur-là, c'était pas qu'une métaphore, hein.
Ah non, pas du tout. Dans le temple de Jérusalem, il y avait littéralement une barrière de pierre, avec des inscriptions gravées dessus qui prévenaient les étrangers que s'ils franchissaient cette limite, ils seraient seuls responsables de leur mort imminente.
Rien que ça, sympa l'accueil.
C'est clair. Et la théologie paulinienne, elle vient affirmer que ce mur a volé en éclats. Pour une raison très précise qui est liée à la grâce. En fait, le Saint-Esprit a été accordé de manière égale aux deux groupes.
Juste sur la base de la confiance en Christ.
Exactement. Et la conséquence de ça, elle est vertigineuse.
Ben oui, parce que si la divinité décide d'ignorer la généalogie pour distribuer son esprit, bah toutes ces centaines de règles humaines pour garder les peuples séparés, elles deviennent complètement caduques.
Du jour au lendemain.
C'est un peu comme, enfin, moi je vois ça comme si le carré VIP le plus exclusif et le plus surveillé au monde voyait soudainement ses cordons de velours coupés, juste parce que tous ceux qui patientaient sous la pluie dans la rue reçoivent le même passe d'accès illimité.
C'est une excellente image. Et le choc culturel généré par cette distribution de passes, c'est super difficile à concevoir pour nous aujourd'hui.
Je veux dire, même au niveau de la nourriture, ça changeait tout.
Oh oui, les codes alimentaires stricts, c'était pas du tout pour faire un régime ou des recommandations diététiques. Ça garantissait qu'un juif pieux ne pouvait physiquement pas partager un repas avec un non-juif sans se polluer.
C'est dingue quand on y pense.
Et l'auteur des Hébreux confirme que ces frontières ethniques et ces règles de séparation n'ont plus lieu d'être. La ligne de démarcation a complètement bougé.
Elle ne sépare plus un peuple élu des autres nations, du coup.
Non. Elle sépare désormais ceux qui sont sanctifiés, donc les croyants, du reste du monde.
Et même des trucs super fondamentaux comme le sabbat changent de nature, d'après les sources.
Tout à fait.
C'est plus vu comme juste se reposer le septième jour sur terre. Le sabbat est carrément redéfini comme le repos éternel dans le royaume divin.
C'est un changement de paradigme total.
Mais, et c'est là que je me pose la question, si on accepte que toutes ces règles pratiques, tangibles, quotidiennes disparaissent, comment la communauté évite-t-elle de perdre son identité? Il faut bien remplacer ces frontières horizontales par autre chose pour garder un sens du sacré, non?
Eh bien, c'est là que l'auteur des Hébreux est brillant, en fait. Puisque la frontière horizontale entre les peuples est tombée, il s'attaque à la barrière ultime, la frontière verticale.
Entre l'humanité et le domaine divin, c'est ça?
Exactement, le centre névralgique de la pureté antique. Mais De manière très surprenante, il ignore totalement le magnifique temple de marbre de Jérusalem.
Oui, il en dit presque pas un mot, c'est vrai. Il choisit plutôt de se concentrer sur le tabernacle.
Voilà, la tente.
La fameuse tente portable que les Israélites utilisaient dans le désert des siècles auparavant. Pourquoi ce choix ?
Le choix, il est ultra stratégique. Il s'appuie sur le livre de l'Exode, où Dieu ordonne à Moïse de construire ce tabernacle selon un modèle précis qu'il lui a montré sur la montagne.
D'accord.
Et en faisant ça, l'auteur établit une prémisse majeure. La tente terrestre, et par extension le grand temple en pierre de Jérusalem, ça n'a jamais été la réalité ultime.
C'est juste une copie, en fait.
C'est ça. Ce sont que des copies. Des esquisses complètement imparfaites de la véritable salle du trône céleste.
C'est une image tellement puissante. C'est comme passer des années ou des générations à vénérer la maquette en 3D d'un gratte-ciel en carton-pâte posé sur un bureau, au lieu d'ouvrir la porte et d'entrer dans le véritable bâtiment en verre et en acier qui est juste dehors.
L'analogie fonctionne parfaitement, ouais. Et c'est encore plus frappant quand on réalise que l'accès à cette fameuse maquette, il était régi par une géographie de l'exclusion extrêmement stricte.
Le système des cercles concentriques ?
Voilà. La majorité des laïcs s'arrêtait à un premier point. Ensuite, les prêtres pouvaient avancer un peu plus loin, et une seule fois par an, un seul homme, le grand prêtre, pouvait franchir les périodes finales.
Pour entrer dans le Saint des Saints.
Exactement. Donc, pour le commun des mortels, l'accès direct était non seulement interdit, mais carrément structurellement impossible.
Et pour pouvoir s'approcher en minimum de ces zones, tout reposait sur le sang des sacrifices d'animaux. Et c'est là que les sources me font un peu tiquer, je dois l'avouer.
Ah oui, sur quel point ?
L'auteur des Hébreux dit noir sur blanc qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Mais attends une seconde, n'est-ce pas exactement ce que le livre du Lévitique disait de faire depuis des siècles ?
C'est une très bonne remarque.
Si Dieu a prescrit ces sacrifices, pourquoi affirmer soudainement qu'ils sont inefficaces ? Pourquoi cette répétition des sacrifices prouvait-elle finalement leurs limites ?
En fait, l'auteur pose un regard hyper clinique sur l'histoire. Son argument, c'est que si ce sang animal réglait définitivement le problème de la pollution humaine, pourquoi on devait recommencer les rituels année après année ?
C'est vrai, ça finit jamais, quoi.
Voilà. Et le docteur De Silva éclaire ça avec un concept génial, la notion de détergent rituel.
Le détergent rituel, j'adore le terme.
Ouais, ça parle bien. Les sacrifices d'animaux avaient une certaine efficacité, mais c'était limité à la surface. Le sang purifiait ce qu'ils appelaient la chair.
Donc ça levait temporairement la pollution externe.
C'est ça. Pour que la présence de Dieu puisse rester au milieu du campement sans consumer le peuple, tout simplement.
C'était une sorte de solution de maintenance, en fait. Un lavage externe qui permet à la machine de continuer à tourner sans exploser en plein vol.
Mais le problème de ce détergent animal, c'est qu'il n'avait pas la puissance chimique, pour garder la métaphore, pour atteindre la conscience humaine en profondeur.
Parce qu'un animal n'a pas de volonté morale.
Exactement. Son sacrifice est involontaire, donc il ne peut pas transformer l'intériorité de celui qui l'offre. Alors que le sacrifice de Jésus, lui, introduit une mécanique radicalement différente.
Parce qu'il offre une obéissance parfaite et volontaire, jusqu'à la mort.
Voilà, c'est la volonté derrière le sacrifice qui change absolument tout.
Le nettoyage n'est plus cosmétique, il est en profondeur.
Ce détergent rituel devient capable de purifier de l'intérieur, de rendre la conscience complètement clean, on va dire. Et c'est ce nettoyage minutieux qui rend possible un truc impensable avant, c'est-à-dire un accès intime et sans médiateur à l'espace divin lui-même.
Sauf que, pour faire comprendre cette révolution-là à un public du 1er siècle, l'auteur pouvait pas juste balancer des concepts abstraits.
Non, il lui fallait un langage qui leur parle intimement.
Et quel meilleur langage que celui du jour le plus solennel du calendrier juif ?
Le fameux jour des expiations, Yom Kippour.
Yom Kippour, voilà.
Et honnêtement, la logistique de ce rituel antique, elle était d'une complexité effarante.
Oui, le grand prêtre devait d'abord se laver, procéder à des ablutions.
Ouais.
Et ensuite, avant même de s'occuper de son peuple, il devait sacrifier un taureau pour ses propres fautes et celles de sa famille, non ?
C'est ça. Il devait transporter ce sang derrière le voile, dans le Saint des Saints, et l'asperger sur l'Arche de l'Alliance. Et seulement après ça, deux boucs entraient en scène.
Une vraie boucherie à ciel ouvert quand on y pense, entre le bruit, l'odeur du sang, la fumée.
C'était très intense, ouais. Le premier bouc était sacrifié pour décontaminer le sanctuaire physique des pollutions du peuple. Et le second, le bouc émissaire, servait de réceptacle symbolique.
Le prêtre posait les mains sur lui pour transférer les péchés de la communauté et on l'envoyait hors du camp, dans le désert.
Voilà. Et pour finir, les restes des animaux sacrifiés devaient être entièrement brûlés à l'extérieur du campement, donc loin de la zone pure.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on superpose toute cette lourde logistique à Jésus, le contraste est saisissant, parce que le nouveau médiateur n'est plus compromis par le même problème que ceux qu'il essaye d'aider.
Exactement. Contrairement aux anciens prêtres lévitiques, Jésus n'a pas besoin de sacrifier pour ses propres péchés. Il est décrit comme parfaitement sans péché.
Il arrive avec une ardoise complètement vierge, quoi.
Et ça, ça change tout. Mais l'auteur va encore plus loin. Il assène un vrai coup de marteau théologique aux hiérarchies internes d'Israël.
Par rapport à la généalogie des prêtres, tu veux dire ?
Oui. Sous l'ancienne alliance, l'autorité d'un prêtre dépendait exclusivement de son arbre généalogique. Fallait appartenir à la tribu de Lévi, point barre.
Alors que Jésus est de la tribu de Juda.
Voilà. Il n'a aucun droit légal de s'approcher de l'autel terrestre, mais l'auteur contourne cette impossibilité en déclarant que son sacerdoce repose pas sur une loi généalogique, mais sur une vie indestructible, prouvée par sa résurrection.
Waouh ! Ça rend la généalogie complètement obsolète face à la victoire sur la mort.
Tout à fait.
Et la géographie même de son exécution, s'aligne sur les anciens codes de Yom Kippour, c'est troublant. Les sources soulignent que Jésus souffre hors de la porte de la ville.
Comme les corps des animaux sacrifiés qui étaient brûlés hors du camp.
Il devient la pollution ultime pour purifier les autres. La superposition est vraiment magistrale.
Et le point culminant de tout ça, il arrive après la mort. Dans le système lévitique, le rituel atteignait son paroxysme quand le prêtre entrait dans le sein des saints terrestres.
Sauf que là, c'est remplacé par l'ascension.
C'est ça. Jésus n'entre pas dans une tente cousue par des mains humaines, il entre dans le véritable saint des saints, le domaine céleste.
Et là-dessus, il me semble hyper important de clarifier un point que le docteur De Silva soulève, juste pour éviter un malentendu un peu macabre, en fait.
Oui, vas-y.
Le texte ne suggère pas du tout que Jésus est monté au ciel en portant littéralement un bassin rempli de son propre sang physique pour en asperger les nuages.
Ah non, non, la métaphore atteint ses limites matérielles ici, c'est sûr. Ce qui est présenté dans le sanctuaire céleste, c'est pas de l'hémoglobine physique.
C'est la réalité spirituelle que ce sang représente.
Exactement. Une vie humaine menée dans une obéissance totale, inconditionnelle, à la volonté de Dieu jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça qui dégage le chemin cosmique vers la présence divine.
Bon. Alors concrètement, ce qui nous amène à la question la plus pressante. Si ce grand rituel cosmique est achevé, si l'accès divin est garanti et que le ciel est ouvert, qu'est-ce qui reste à faire pour les croyants aujourd'hui ?
C'est la vraie question, ouais.
Parce que si on ne doit plus amener de moutons à un autel, quelle est la nouvelle monnaie d'échange pour interagir avec le divin ? La redéfinition de l'espace sacré, elle redéfinit forcément l'action des croyants aussi, non ?
C'est ça le génie du texte. L'auteur n'abolit pas l'idée de sacrifice, il la recycle, puisque les croyants ont bénéficié de ce détergent intérieur dont on parlait.
Ils partagent ce statut de personne consacrée ?
Voilà. Ils ont donc un service sacerdotal à rendre. Le chapitre 13 liste de nouveaux sacrifices qui plaisent à Dieu. Offrir des louanges, faire le bien et partager ses ressources.
Mais attends, partager avec son voisin ou faire le bien, ça ressemble plus à de la bonne morale civique qu'à un rituel divin, non ? Comment des actions aussi prosaïques peuvent remplacer le drame sacré du sang répandu ?
Mais c'est là toute la révolution éthique. Sous l'ancien code, la règle d'or c'était « Soyez saints, car je suis saint ».
De Lévitique 11.
Oui, et ça se traduisait par une stratégie défensive, d'évitement. La sainteté était fragile, donc pour rester pur, fallait s'éloigner de tout ce qui pouvait polluer.
S'isoler, se protéger.
C'est ça. Mais le nouveau paradigme y bascule vers la stratégie de Jésus. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. L'action divine par excellence, c'est plus de s'isoler dans sa perfection, mais de descendre dans la boue pour aider.
Ah, je comprends. Donc, éviter la pollution aujourd'hui, c'est pas s'enfermer dans une bulle stérile, mais descendre dans l'arène tout en gardant sa boussole morale.
Exactement. Partager ses ressources devient un sacrifice suprême, parce que ça reflète le caractère de Dieu.
L'acte sacré consiste à exporter la bonté, pas à protéger sa pureté. Et du coup, ça redéfinit aussi le péché impardonnable, dont parle le texte, le fait de pécher volontairement.
Tout à fait. C'est plus trébucher sur une règle alimentaire obscure. Le péché ultime désormais, c'est d'abandonner l'assemblée des croyants.
De rompre le lien, quoi.
La trahison de la communauté remplace la contamination rituelle. Cette stratégie de la miséricorde redessine les cartes des initiés et des exclus.
L'appartenance se vérifie dans la volonté de s'engager avec les autres, pas en inspectant leur menu. Mais j'imagine que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune limite, hein ?
Non. L'auteur ne verse pas dans la permissivité absolue. La communauté reste le corps du Christ.
et il faut la protéger d'autres types de pollution.
Des pollutions internes, donc. On a coupé les cordons de velours du VIP, mais le bâtiment a toujours des murs porteurs.
Exactement. Il met en garde contre les racines d'amertume qui créent la dissension, contre les valeurs matérialistes de la société romaine, et contre l'inconduite personnelle.
La frontière est maintenue, mais elle est éthique.
C'est ça. Elle est tracée par l'intégrité et l'amour en action.
C'est fascinant. Si on s'arrête un instant sur tout le chemin qu'on a parcouru au cours de cette exploration, c'est fou. On a commencé dans un monde structuré par des barrières architecturales de pierre.
Avec une armée de prêtres et des effusions de sang continuelles.
Voilà, une carte d'exclusion basée sur la généalogie. Et on atterrit dans un univers où l'accès au sacré est direct, spirituel, universel et garanti par un sacrifice intérieur profond.
L'architecture complexe du temple a été déconstruite pour être remplacée par l'obéissance du Christ. On passe vraiment d'une religion externe à une réalité spirituelle intériorisée.
Et ça me fait penser à une dernière pensée provocatrice issue de nos sources pour clore notre analyse. Le texte mentionne une métaphore supervisuelle au chapitre 6. Il décrit l'espérance des croyants comme une ancre.
Ah oui, l'image de l'ancre, elle est magnifique.
Mais au lieu d'être jetée vers le bas, vers le fond de l'océan, cette ancre est jetée vers le haut. Elle s'accroche directement au-delà du voile, à l'intérieur même du Saint des Saints célestes, là où Jésus les a précédés.
Ça matérialise une espèce de corde invisible qui relie l'existence humaine à l'épicentre de la réalité divine.
Et ça nous laisse sur cette réflexion géniale. Si on est tous secrètement reliés par cette attache invisible, comment ça devrait transformer notre perception des espaces du quotidien?
La distinction entre le sacré et le profane s'effondre totalement.
Exactement. Si le divin n'est plus enfermé dans un bâtiment lointain, chaque endroit ordinaire, un embouteillage, une salle d'attente, ou même notre propre cuisine encombrée, chaque endroit devient potentiellement le seuil d'une rencontre sacrée. C'est une idée vraiment puissante à méditer bien après la fin de notre écoute.